Direct en jeu, la Radio Insolite, au théâtre L'Oriflamme, qui est un des lieux à pratiquer, avec quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Je n'ai pas vu un spectacle, j'ai vu une lecture. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi la différence?
Une lecture, c'est faire découvrir un texte qui va être porté au théâtre prochainement. Et donc, on met le public, les directeurs de théâtre, les futurs producteurs, les journalistes, par exemple. On les met avec nous dans l'aventure, le début du projet. Donc, on est vraiment sur l'intime, la sous-couche. Voilà.
C'est de la triche. Tu as passé ton temps à lire un texte? Tu connais pas les
pas... Ouais, en fait, ouais, j'allais vous dire ça. Quand la différence entre un spectacle et une lecture, bah, c'est quand le texte est sur scène, c'est une lecture. Voilà.
Par contre, ce qui est sympa, c'est que dans ta lecture, tu fais vivre quand même le texte.
Oui, alors en fait, moi, je travaille avec Wally Bageux et maintenant, avant, les lectures ne se faisaient pas comme ça. On faisait que lire pour. Mais là, maintenant, on l'a travaillé. Ça fait quand même un an. On travaille dessus, donc on est proche de l'interprétation presque. Voilà, à la limite. C'est aussi une façon aussi de l'apprendre et de l'intégrer, bien sûr.
Alors, quand c'est une lecture, ça veut dire que le spectacle n'est pas prévu cette année, mais pour l'année prochaine, c'est ça?
Absolument, absolument. Mais on appelle ça lecture, mais effectivement, il y a de la chair et effectivement, c'est travaillé en répétition. Oui, alors c'est pour l'année prochaine.
Alors, comment présenter le spectacle?
Pardon, excuse-moi.
Comment présenter cette lecture? Comment présenter le spectacle?
Oh, comment présenter le spectacle? On va plutôt parler de l'histoire, en fait. C'est Longue Conservation. Ça a été écrit par Jean-Pierre Brouillot. Et on suit un petit peu, c'est bien évidemment un seul en scène, c'est un monologue. Et c'est Octave qui se... On découvre un être qui est atteint de syllogomanie. La syllogomanie, c'est ces gens qui ne... se départissent de rien, enfin qui gardent tout. Et cet homme-là est particulier parce qu'il trouve que toute chose, mais toute la plus petite chose, même le plus petit trombone, a une âme. Voilà, c'est d'une beauté, c'est un texte d'une poésie hallucinante, mais ça parle d'un handicap qu'atteint pas mal de gens dans la société française, en tout cas.
Qu'est-ce qu'il vient de me dire là? Un trombone a une âme?
Oui, bien sûr, tout a une âme.
Ton chapeau a une âme?
Absolument, mon chapeau a une âme, il a un nom. Alors, la syllogogamie, c'est plus vulgairement le complexe de Diogène. Il y a énormément de personnes qui en sont atteintes, qui n'en parlent pas. Et souvent, on connaît très bien des gens et on s'étonne de ne pas être invité chez eux. Et puis, au fur et à mesure, nous, en travaillant, on s'est aperçu qu'il y avait un nombre de gens incroyables qu'on côtoyait et qui disaient « Oui, moi, je connais très bien parce que je suis atteint de ça. » Alors, évidemment, il y a différents échelons, différentes étapes. Il se trouve que là, Octave, qui se met, qui a ce syndrome qui se déclenche, ça vient d'un choc, j'en parlais tout à l'heure, une prostration. Il perd sa mère. Donc, c'est une rupture avec sa mère, avec la vie, et on le retrouve avec les fleurs, des fleurs qu'il a dans la main, qu'il prend à l'enterrement, et il ne peut pas s'en séparer. Et tout va devenir comme ça. Voilà, c'est le mal d'une société moderne aussi.
Alors, je sais quand même qu'il faut parler aux plantes, parce que c'est important. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut parler à son ballon d'eau chaude, à sa machine à laver?
En fait, oui, il faut parler aux plantes, il faut parler à l'eau. Aussi, l'eau a une mémoire, ça on le sait. Mais en fait, moi, depuis que je travaille sur ce personnage-là, je me rends compte que les choses, elles n'ont peut-être pas une âme, mais elles sont empreintes de souvenirs. Si, par exemple, vous vivez une rupture ou une perte, vous allez vous recueillir, vous allez vous allonger dans votre canapé, vous allez y dormir, vous allez y rester une semaine, deux semaines, trois semaines. Au bout de ce temps-là, vous le jetterez pas, ce canapé, parce qu'il fera partie de vous-même. Il sera, c'est le souvenir, quelque part. Vous avez été dorloté par lui, ou alors, au contraire, vous allez vous en séparer, parce qu'il vous rappelle des souvenirs. Mais en tout cas, les choses commencent. On commence un petit peu à les humaniser. Voilà.
Ce que j'aime bien, c'est dans la pièce, on n'hésite pas à parler aussi de tous les gens qui sont autour. Parce que, bon, celui qui vit cette période-là, comment dire, déborde un peu, sort de son appartement, va dans la cour, va sur les parties communes.
Oui, absolument, mais c'est quelqu'un qui a une profession, il est fonctionnaire, il est musicien, il est marié, il a un fils qui s'appelle Jérôme, donc il a une vie complètement établie, et tout d'un coup, ce syndrome va venir bousculer cette vie et l'éparpiller, l'éclater en morceaux. Et à partir de là, bien entendu, bon, alors plus il va garder des objets, plus il va leur parler, plus il va créer une intimité avec eux, et plus évidemment il va se séparer de ce qui vit autour de lui et de l'humain en général, puisqu'il se sent complètement incompris. Mais il est d'ailleurs, ça devient insupportable pour sa femme qui le quitte. Son jeune fils Jérôme, la femme ne veut plus qu'il vienne vivre chez le père. Ils sont séparés. Et puis il va se renfermer, mais il a quand même besoin de l'extérieur. Donc quand un chauffe-eau est fichu et qu'il a rendu l'âme, il est bien obligé d'appeler un plombier pour le changer, même s'il ne se sépare pas du chauffe-eau qui a rendu l'âme. Et on voit le regard des autres. Et le regard des autres, évidemment, c'est l'incompréhension la plus totale. Voilà.
Tu dis que c'est un seul en scène. Soit j'ai rêvé, soit j'ai entendu une voix féminine à un moment donné.
Oui, en effet, je pense qu'il y aura la voix de sa femme, de sa mère, qu'on entendra en effet. Et est-ce que c'est pas dans sa tête finalement quelque part? Oui, mais ça, voilà. Mais normalement, c'est un seul en scène. Enfin, c'est un seul en scène, non, parce qu'il y a aussi tous les objets autour de lui qu'on ne verra pas, mais qu'on devinera. Voilà.
Alors, si j'ai bien compris, donc quand on parle des objets et tout, on va les voir sur scène.
Absolument pas. Alors moi, je.
Mais ils ont le droit d'exister aussi. Qu'est-ce que c'est?
En fait, si, on les verra, mais ils n'existeront pas. Voilà.
Et on les verra de par l'interprétation, puisque tout se passe aussi dans sa tête et c'est la chair de l'invisible. Moi, j'aime beaucoup parler de l'invisible dans mes mises en scène. Et donc, l'invisible existe, il a une matière. Et donc, on verra cette matière qui va être matérialisée d'abord par d'autres espaces de vie, car j'ai décidé de travailler sur l'espace de vie en hauteur. Qui change aussi la façon dont on appréhende un plateau. C'est plus la même surface, c'est plus le même jeu non plus, puisque l'aérien, ça change beaucoup de choses. Et les objets apparaîtront. Ça, c'est le travail de création-lumière. Voilà.
Est-ce que tu es atteint de syllogomanie, c'est ça?
Je pense que nous sommes tous atteints de syllogomanie. Il y a des choses dont on ne se départit pas, enfin, il y a des choses qu'on garde. Il y a certainement chez tout le monde. On garde des choses dont on ne se sert plus, voilà, et on ne sait pas pourquoi on les garde, voilà. C'est juste que après on n'est pas dans l'excès, mais je pense qu'on a tous une petite part de ça, oui.
Ça fait quoi de savoir qu'il faut attendre un an pour jouer la pièce?
C'est notre métier. La création, c'est très long. On en parle depuis un an. Évidemment, on a eu d'autres choses, Edouard et moi, chacun de son côté, puis d'autres choses ensemble aussi sur du théâtre. Du travail, mais il est clair que moi, quand j'ai lu le roman, ça remonte à 2 ans. Et puis le temps que l'auteur... je voulais vraiment, c'était une nécessité que ça devienne une pièce de théâtre, que l'écriture vienne sur un plateau. L'auteur a mis un an à faire l'adaptation, et c'est ça notre métier. Entre le moment où il y a la rencontre avec le texte, entre le moment où on se dit « ça y est, je le fais », et puis qu'on trouve les moyens, la production, la distribution, la première petite naissance qui est la lecture, et puis tout d'un coup on passe à une véritable production théâtrale, c'est normal. En fait, c'est presque le temps de faire un enfant, quoi, entre la lecture et... C'est l'accouchement, c'est comme ça, c'est un accouchement. Voilà.
Ça te fait quoi de savoir que tu vas venir jouer à Avignon? C'est la première pour toi.
Quoi donc? Excuse-moi.
Ça te fait quoi de savoir que tu vas venir jouer à Avignon?
Alors... je m'appelle Edouard Montout, je joue à Avignon déjà, voilà, dans une pièce qui s'appelle
J'ai fait exprès.
Dumas, la plume et l'épée, et je crois que ça doit faire ma 11e fois que je joue à Avignon. J'ai même joué il y a quelques années dans le Hin, deux fois dans le Hin, sous Jacques Nichet au Palais des Papes, et sous Duringer, je ne sais plus où. Donc ouais, je commence un peu à connaître un peu la ville.
Et alors ?
Et alors, j'aime beaucoup, même si je commence à me demander si 1800 spectacles, c'est pas un peu trop. J'aimerais qu'il y ait... Alors, mais je pense que ça, je pense que les salles sont remplies. J'ai toujours du mal avec autant de gens dans la rue. Voilà. Je suis un parigot.
Merci à vous deux.
Merci beaucoup.
Merci.